Le journal vous est présenté par François Chagnot.
Bonjour à tous. Des centaines de milliers de manifestants dans les rues de Londres pour défendre la cause palestinienne. Le mouvement continue à prendre de l'ampleur, notamment grâce aux mobilisations des étudiants dans les universités et grandes écoles occidentales. Le premier ministre espagnol reprend pied. Pedro Sanchez reçoit le soutien de plusieurs membres de son parti après des accusations de corruption visant sa femme. Le monde paysan divisé après l'annonce d'un nouveau paquet de mesures de soutien aux agriculteurs par le Premier ministre ce matin. Et puis la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a présenté les grandes lignes du projet de loi sur la fin de vie aux membres de la Convention citoyenne. Dernière étape avant le début d'un long parcours législatif. Londres, cœur battant de la cause palestinienne. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes donc ont manifesté dans les rues de la capitale du Royaume. Cette mobilisation londonienne fait écho à l'occupation de Sciences Po Paris et du mouvement de protestation dans plusieurs universités américaines et britanniques. Ce mouvement sur les campus donne un coup de fouet aux manifestants, Emeline Vin.
Kéfié noir et blanc autour du cou, Iram participe aux marches depuis octobre. Elle se sent regaillardie par les mobilisations sur les campus.
C'est affreux d'avoir encore besoin de venir ici. Mais ça met du baume au cœur de voir que le mouvement grandit avec tout ce qui se passe dans les facs américaines. J'ai l'impression qu'on est à un point de basculement dans la manière de réagir.
Alors que les marches londoniennes se déroulent plutôt pacifiquement, la brutalité de la réponse policière aux États-Unis et en France choque certains. Pour Sophie, les gouvernements auraient dû agir plus tôt.
Tous les adultes et les personnes plus âgées devraient avoir honte qu'on en soit arrivé là. Tout le monde devrait appeler un cessez-le-feu. Le fait qu'on s'en remette aux jeunes et aux activistes en dit long sur notre société.
Mais les étudiants pourraient avoir le même impact politique qu'en mai 68 pour Anna, qui manifeste avec un panneau « Allez les étudiants ».
Ma fille qui est étudiante à Brighton, et elle est en train d'organiser... Beaucoup d'étudiants pour faire la même chose. C'est les jeunes qui ont l'énergie, la puissance, et c'est notre responsabilité en tant que parents de les soutenir. Si l'énergie des jeunes ne nous inspire pas, on est perdu.
Comme aux États-Unis, les manifestants londoniens exigent un embargo sur les ventes d'armes à Israël.
Et on l'apprend à l'instant, le Hamas publie une vidéo montrant deux otages israéliens enlevés le 7 octobre. C'est une information de l'agence France Presse. Le Hezbollah libanais dit avoir mené une attaque aux drones et aux missiles guidés sur le nord d'Israël. L'agence France Presse le signale également. Plus d'informations sur cette attaque à venir. L'horizon s'éclaircit pour le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le parquet a demandé jeudi le classement sans suite de l'enquête pour corruption et trafic d'influence qui visait son épouse. Pedro Sanchez envisage toujours de démissionner. Il avait provoqué un séisme politique en l'annonçant dans une lettre mercredi. Alors aujourd'hui, ses camarades socialistes se sont rassemblés devant le siège du parti pour lui apporter leur soutien. Marie-Hélène Barrel-Estero.
La journée est historique pour les socialistes espagnols. Aucun d'entre eux ne veut que Pedro Sanchez s'en aille et ils sont venus par milliers des quatre coins de l'Espagne pour lui dire haut et fort. Dans sa lettre, Sanchez a dénoncé mercredi dernier une plainte déposée contre sa femme basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par la droite et l'extrême droite. Les militants socialistes en sont convaincus. Ils soutiennent à 100% Sanchez et sa femme. C'est le cas de José Antonio qui n'a pas hésité à faire des centaines de kilomètres ce matin.
Je suis venu soutenir le président Sanchez pour qu'il continue, qu'il ne parte pas. Courage, il fait du bon boulot et l'Espagne a besoin de lui. Je n'ai aucun doute, il va tenir. C'est un homme très fort.
C'est vrai que Pedro Sanchez est habitué aux situations désespérées et à y faire face grâce à sa grande capacité de résistance. Mais mercredi dernier, il avait l'air particulièrement abattu dans l'hémicycle. Anna espère qu'il ne va pas jeter l'éponge.
Je ne veux pas que Pedro parte parce qu'il est le meilleur président que nous puissions avoir. J'ai très peur de sa décision. Il avait l'air très mal. Et quand tu aimes ta femme et que tu la vois mal, tu te dis « Basta, je m'en vais ». J'espère que non. C'est pour ça qu'on est venu ici. Voyons si, avec le soutien, ça lui donne des forces et il ne part pas.
Le compte à rebours continue. Lundi prochain, Sanchez doit annoncer s'il quitte le navire ou il résiste une fois de plus.
Marie-Hélène Balestero. Moscou continue à s'accaparer les filières d'entreprises étrangères sur son territoire. Dernière nationalisation forcée en date, celle du fabricant de matériel de chauffage italien Ariston. Rome convoque l'ambassadeur du Kremlin pour explication. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Moscou s'est emparé des filiales russes de plusieurs entreprises occidentales, notamment Danone ou encore du brasseur danois Carlsberg, une réponse aux sanctions occidentales imposées aux entreprises russes. Le Kremlin dispose d'un autre levier et face à ces sanctions, la Russie va continuer à demander à ses plus grandes entreprises de continuer à convertir 80% de leurs revenus à l'export en roubles. Alors c'est une façon de soutenir la valeur de la monnaie nationale. Moscou a mis en place la vente forcée de devises pour la première fois après son expulsion du système bancaire international SWIFT en février 2022. Le Premier ministre a dévoilé ce matin une nouvelle série de mesures de soutien au monde paysan, nouvelles aides financières, assouplissement du plan Ecophyto 2030 et investissement pour le stockage de l'eau. Mais pour Laurence Marandola, à la tête de la Confédération paysanne, le compte n'y est pas, surtout en ce qui concerne la réforme des retraites agricoles.
On ne peut pas dire que d'aligner à partir de 2026 le régime de retraite des agriculteurs sur celui du régime général, c'est pas du tout ce qui va se passer avec la question des 25 meilleures années. Ça va changer le type de cotisation et ça laissera sur le bord de la route une quantité d'agriculteurs qui n'ont pas les 25 meilleures années. Je voudrais d'abord citer les retraites de nos collègues des départements et territoires d'outre-mer pour des retraites agricoles en dessous de 500 euros. Eux sont pas concernés par cette mesure. Je voudrais aussi rappeler que les femmes, les paysannes ont des retraites pour l'immense majorité d'entre elles, en dessous des 1 000 euros. Et elles ne seront pas non plus concernées par les 25 meilleures années, ni les carrières incomplètes. Ça va laisser plein de gens sur le bord de la route. Et ça, c'est vraiment inacceptable.
Voilà, les syndicats majoritaires, eux, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, saluent les annonces. Ils promettent de surveiller de près leur application. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, assure, lui, que ces mesures étaient nécessaires pour mettre fin à la longue détresse des agriculteurs.
On a besoin de sortir de cette crise. C'est une crise qui datait, au fond, qui est la sédimentation de difficultés connues depuis 20, 25 ou 30 ans. Là, on a changé de logiciel, au fond, dans notre regard sur ces choses-là. Et je pense qu'on a posé de bonnes bases pour réouvrir des perspectives à l'agriculture, parce que le sujet, c'est quand même de donner envie à des jeunes de s'installer.
Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était au micro de France Info. C'est la fin d'un long chemin pour les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Après 3 mois de discussion, ils se réunissaient aujourd'hui pour la dernière fois autour de la ministre de la Santé. Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 10 avril dernier. Bonjour Héloïse Weiss.
Bonjour.
Catherine Vautrin est donc venue lever les derniers doutes des citoyens.
À la question « Qu'avez-vous fait de nos travaux ?», la ministre de la Santé rassure d'emblée. Le projet de loi reflète bien les propositions des citoyens.
Vous nous aviez demandé d'ouvrir un chemin d'accès à l'aide à mourir et nous le faisons dans le prolongement des législations existantes. Vous nous aviez demandé d'inscrire des garanties solides dans la loi. C'est ce que nous faisons.
Même si ces conditions d'accès à l'aide à mourir sont trop strictes pour plusieurs participants.
Pour bénéficier de l'aide active à mourir, il faut être obligatoirement français. Quelle est la raison ?
On peut penser à des gens paraplégiques, par exemple. Est-ce qu'ils sont pris en compte dans ce projet de loi ? Est-ce que c'est englobé dans la notion de pathologie ?
Ailleurs, dans l'hémicycle, on s'inquiète aussi du budget consacré à la mise en œuvre de la loi ou encore de l'engagement des soignants.
Comment est-ce qu'on peut être sûr que les gens auront vocation à venir dans ces filières-là qui vont être mises en place par cette loi ?
Et puis, il est aussi question de sémantique. Une participante interroge « Pourquoi ne parle-t-on toujours pas de suicide assisté ?» Réponse de la ministre.
Parce que personne ne peut d'abord être en possession du produit et personne ne peut tout seul le décider. Vous considérez que vous répondez aux conditions, mais il y a un médecin qui doit valider, qui fait une expertise médicale et qui accepte qu'on vous accompagne.
Le texte devrait en tout cas évoluer. La commission spéciale étudie à partir du 13 mai les articles et les amendements du projet de loi. Les débats débuteront ensuite avec l'ensemble des députés. Ce sera le 27 mai.
Merci Héloïse Weiss. Et hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'il lancerait avant la fin de son mandat une nouvelle convention citoyenne sans indiquer le thème. L'hémorragie se poursuit au sein du cabinet de la porte-parole du gouvernement. 3 conseillers de Prisca Thévenot ont démissionné cette semaine. La ministre a perdu 7 membres de son équipe en moins d'un mois. Une vague de départ liée à plusieurs cafouillages de la porte-parole. Prisca Thévenot avait notamment annoncé une tentative de passage à l'acte terroriste durant le week-end de Pâques. Elle avait dû se dédire ensuite. Mona Lisa pourrait bien déménager. Alors non, rassurez-vous, la Joconde ne va pas quitter le Louvre, mais la présidente du musée souhaite installer l'œuvre de De Vinci dans une salle à part, car les visiteurs se trouvent à l'étroit. Chaque jour, le sourire énigmatique de Mona Lisa attire plus de 200 000 curieux venus du monde entier. Le temps météo France maintient 8 départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages jusqu'à 21h. La soirée est à l'image de cette journée grise et pluvieuse sur la majeure partie du pays. Il fait 10 à Brest, 15 à Paris, 12 à Bordeaux, 17 à Strasbourg et Nice.